Et de fait, c'est la troisième, puisque par deux fois déjà, il nous est dit que les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et je vous préviens, il va falloir s'y habituer, car du chapitre 3 au chapitre 13, cette mention apparaît pas moins de 7 fois. Les imbéciles ! Comment est-ce possible ? Mais, au fait, en quoi est-ce qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel ? Alors, nous le trouvons décrit à plusieurs reprises, pas à chaque fois, mais à plusieurs reprises. Au chapitre 2, par exemple, les versets 11 à 13, les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux, pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. D'autres détails nous sont donnés au chapitre 3, verset 7. Ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. Voilà. Et encore, donc, c'est un peu le même contenu qui revient en d'autres occurrences. Et tout laisse à penser qu'il en est le même, qu'on parle de la même chose à chaque fois où le péché en question n'est pas précisé. Alors, donc, non seulement ils pêchent, mais en plus, toujours de la même manière, ils retombent toujours dans le même travers. C'est à désespérer. Je pense que vous saisissez le deuxième degré qui se tient dans mon propos. Lorsque nous avons mis en commun nos approches entre prédicateurs de ce livre des juges, nous avons mis en évidence une spirale. Alors peut-être la spirale, c'est quelque chose que vous avez déjà vu ici. On en a déjà parlé dans notre commentaire du chapitre de Jean. Mais là, c'est... Si l'image est la même, on va l'utiliser d'une autre façon. Dans le livre des Jean, on parlait d'une spirale qui allait de l'intérieur vers l'extérieur. On va prendre le chemin inverse, là, et il faut la voir peut-être en trois dimensions. Par exemple, la vue qu'on a au-dessus d'un puits ou d'une tour dans un château, un escalier en colimaçon qui descend. Donc cette image d'une spirale descendante. Et donc, ce que nous avons mis en commentaire, en caractéristique sur cette spirale descendante, le processus, c'est premièrement un péché, la désobéissance aux commandements, à des commandements. Et en particulier, nous venons de le lire, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, et le deuxième, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, le processus s'enclenche par un péché, qui est suivi, quelque temps plus tard, d'une oppression. Oppression qui vient de peuples étrangers, de peuples environnants, de peuples païens, qui les envahissent et qui sont brutaux avec Israël durant plusieurs années. 8 ans la première fois, 18 ans la deuxième, 20 ans dans le texte qui nous occupe aujourd'hui au chapitre 4. Au terme de cette oppression, les Israélites réalisent la raison pour laquelle ils en sont là et ils crient à l'Éternel. C'est ce que chaque fois cette expression est rappelée. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Et donc une repentance, un retour en eux-mêmes pour s'amender et implorer le pardon du Seigneur. Suivi, bien sûr, d'une délivrance. Dieu suscite, et délivrance qui arrive par le fait que Dieu suscite un homme ou une femme. Un juge qui les libère de l'oppresseur et de ses excès, de l'oppresseur et de ses excès de brutalité par des hauts faits marquants. Et ensuite, au terme du processus, Israël retrouve la paix, Israël est rétabli, durant généralement un temps assez long de plusieurs dizaines d'années. Mais malheureusement, au terme de ce temps, nouvelle désobéissance, nouveau péché, nouvelle désobéissance au commandement, et le cycle recommence. Et c'est pour cette raison que la spirale est descendante par la répétition du cycle. La répétition du cycle s'accompagne de péchés de plus en plus odieux. Les juges eux-mêmes deviennent de plus en plus médiocres et les conséquences de plus en plus lourdes. À tel point que, à la fin du livre, on le verra, Israël, rien ne distingue vraiment Israël d'un autre peuple quelconque, un autre quelconque peuple païen. Voire même pire, hein, puisque nous le verrons au chapitre 18, ils se font oppresseurs à leur tour d'une cité paisible et inoffensive. Donc nous allons lire quelques versets du chapitre 4, qui commence donc parce que nous avons lu « Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhoud, juge qui a précédé ce passage. L'Éternel les vendit alors à Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de ton armée était Sisra, qui habitait à Aroshet Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, qu'on a dit, car Yabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, et originaire de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kizon, Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars, ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Donc nous avons au départ ce constat, nous avons déjà fait, les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et ce après 80 ans de paix, et déjà 3 juges qui les avaient délivrés de leurs oppresseurs. Et là, la spirale s'enclenche, ils se retrouvent sous la domination de Yabin, roi de Canaan. Fort de ses 900 chars, Yabin les tient, donc, comme nous l'avons lu, en son pouvoir durant 20 ans, et comme cela est désormais une habitude, sans canon César, sans Aïmars, ils n'ont plus qu'un recours, c'est crier à l'Éternel, crier leur désespoir à l'Éternel. Et comme d'habitude, Dieu va susciter un juge pour les délivrer. Mais là s'arrête la succession des habitudes, car en fait, de juge, c'est une femme que Dieu suscite, Déborah, une femme mariée qui, en plus, est prophétesse. Une vocation rare en Israël, prophétesse, mais pas un cœur unique. Comme juge, donc, Déborah, nous l'avons lu, siégeait dans une région montagneuse, il nous est dit, en Éphraïm, c'est-à-dire en plein centre d'Israël, en plein milieu du territoire d'Israël. Mais les événements qui vont suivre et qui commencent à être décrits ici se passent bien loin de là, à 150 km environ au nord, ce qui, une bonne distance pour l'époque, hein, qui en dit long sur le rayonnement et l'autorité de Déborah. Et nous avons une deuxième particularité, je ne sais pas si vous l'avez relevé, contrairement aux autres juges qui, tels que nous l'avons vu jusqu'à, tel que le récit a été décrit jusqu'à présent, ce n'est pas elle qui va prendre la direction des opérations militaires, mais elle va les confier à un homme nommé Barak. Alors ce Barak-là n'est pas né à Hawaï, lui, il vient de Kedesh, dans la tribu de Nephtali, tout au nord d'Israël, là précisément où se déroulent les événements. cette articulation entre le spirituel et l'opérationnel n'est pas sans rappeler la particularité de nos églises en France, hein, organisées en association. Et donc, Déborah convoque Barak et lui donne ses ordres. Enfin, pas exactement, parce qu'elle lui dit, elle affirme, plutôt que ce sont là les ordres de Dieu pour lui. Et elle semble très factuelle. En peu de mots, elle lui annonce deux choses, ce qu'il doit faire, lui, Barak, et ce que Dieu va faire. Et ce qu'il doit faire, lui, c'est prendre 10 000 hommes de la tribu de Nephtali et de Zabulon, donc les plus directement touchés par la nomination d'Yabin, et avec eux, se diriger vers le sommet du mont Tabor, une petite montagne isolée culminant sur la région. Et ce que Dieu fera, attirer vers eux l'armée de Yabin en un lieu très précis, près d'un torrent, et là, la livrer aux mains de Barak, troupes et chars compris. Je reprends la lecture à partir du verset 8. Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisra. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Barak, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne semble pas très convaincu. Pourquoi est-ce qu'il refuse de partir seul à la tête de son armée, l'honneur qui lui est fait, hein, de lui confier l'armée d'Israël, et pourquoi conditionne-t-il son obéissance à la présence de Déborah à ses côtés? Je trouve que c'est assez difficile de comprendre les motivations de Barak ici. J'ai lu plusieurs commentaires à ce sujet. Je vous en dresse rapidement le tour. Certains font état d'un manque de courage, voire de poltronnerie. D'autres lui prêtent un côté plus calculateur, en suggérant qu'il cherche à embarquer Déborah dans l'aventure, d'une part pour s'assurer que elle ne dit pas les choses à la légère et qu'elle-même, elle y croit. Et d'autre part, peut-être pour ne pas assumer seule si ça tournait mal. D'autres y voient une superstition. Avec la présence de Déborah à ses côtés, supposée agir comme un porte-bonheur ou un talisman. D'autres, enfin plus indulgents, le créditent d'une humilité excessive, d'un manque de confiance en lui, qui le pousserait à chercher l'appui moral de la présence d'un serviteur de Dieu, une servante en l'occurrence, à ses côtés. En fait, je crois que Barak est un peu à l'image d'Israël, son peuple, en pleine déchéance, en plein marasme. Loin d'être le général confiant et déterminé qu'il se doit d'incarner, il est l'archétype de l'homme désorienté, sans repère, sans fil conducteur. Ce n'était pas compliqué, Déborah lui a pourtant tout expliqué, d'une part ce qu'il devait faire et ce que Dieu ferait, mais le problème de Barak ne réside pas dans sa confiance en lui, mais dans sa confiance en Dieu, en sa stratégie, telle que Déborah lui l'a exposée, en sa puissance pour délivrer Israël de Yabin. Si Barak en est là, peut-être parce que tout le peuple en est là, une trop grande proximité avec les pratiques et les idoles païennes. Pensez voir, une petite statuette sur la table du salon, ça ne fait pas de mal. Se tenir dans le temple de Baal, la belle affaire. L'Éternel sait bien que je n'y crois pas. Les sacrifices d'enfants, il ne faut quand même pas croire tout ce qu'on raconte. Une parole de Dieu qui ne fait lui tout à fait partie de son quotidien, qui devient même vaguement étrangère. Et puis un jour, tout s'écroule, plus rien, plus de repères, plus d'explications à ce qui nous arrive. Dieu est devenu si lointain. Et comment, dans ces conditions, ce, se projeter tout à coup dans ce que dit cette femme. Comment retrouver, comme ça, de but en blanc, le goût du combat, l'appétit de la victoire. Et pourtant, si Déborah l'a choisi, lui et Barak, c'est peut-être qu'il est probablement le meilleur de tout ce qu'Israël a en rayon pour accomplir le plan de Dieu. C'est dire dans quel état le reste se trouve. Mais bon, Déborah n'en est plus à sa prime. Elle accepte de se soumettre aux conditions posées par Barak et de l'accompagner. Mais comme, tout en étant juge, elle n'en est pas moins prophétesse, elle a alors cette parole prophétique du verset 9, « Tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisra. » Et là, on croit tous qu'elle parle d'elle-même, hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pensé en le lisant, que c'est d'elle que viendra la délivrance. Mais non, il va y avoir un peu plus loin l'intervention d'une deuxième femme, deux femmes à l'action décisive dans un même épisode. C'est encore une caractéristique de ce passage. L'annonce pour un général d'armée de se voir privé de la gloire de sa victoire, qui plus est, à cette époque, par une femme, ne suscite même pas de sursaut d'orgueil chez Barak. La situation me fait un peu penser à ce vers de Corneille, peut-être l'avez-vous entendu, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Bref, les choses se mettent en place, comme convenu. Barak rassemble les 10 000 hommes des tribus de Nephtali et Zabulon, et il se met en route en direction du mont Tabor, accompagné par Déborah. Et dès cet instant, les choses en fait se passent comme Déborah l'avait annoncé, une armée de 10 000 hommes en mouvement, ça passe pas inaperçu. Donc le chef de l'armée de Yabin, nommé Sisra, on l'a vu, en a aussitôt connaissance et il se dirige immédiatement avec ses hommes et ses 900 chars vers le lieu précis annoncé par Déborah près d'un torrent. Je vous propose de reprendre la lecture à partir du verset 14, à partir du verset 12 même. On informa Sisra que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor. Et depuis Aroshet Goïm, Sisra rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars en fer, et tout le peuple qui était avec lui, c'est ce que nous venons de dire. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisra et tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshet Goïm. Toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. On retrouve ici un Barak fidèle à lui-même, hein, rôle de général d'armée, auquel il faut dire de se lever parce que le jour de la bataille est arrivé. On a fait plus enthousiaste. Enfin, il finit quand même par faire ce qu'on attend de lui. Et comme promis, la déroute des ennemis est au rendez-vous. Et on ne sait rien, à ce moment-là, on ne sait rien du comment, en fait. Aucun détail ne nous est donné, si ce n'est que l'Éternel est intervenu lui-même de manière décisive. Mais en fait, on en aura une idée plus précise au chapitre suivant, au chapitre 5, parce que dans le cantique d'action de grâce que Déborah chante à la suite de cette victoire, nous apprenons qu'une catastrophe naturelle serait à l'origine de la défaite de l'armée de Yabin. Il semble en effet qu'une tempête ou un orage violent venu du sud se soit abattu sur la région. Et les images que nous voyons de plus en plus souvent de torrents en furie, dévastant tout sur leur passage, nous aide à comprendre comment l'armée de Yabin, qui était regroupée, rassemblée dans la vallée de ce torrent, a pu être emportée, alors que celle d'Israël, qui descendait des hauteurs, a pu être protégée. On vous invite à sauter au chapitre 5, justement, prendre ces versets qui apportent ces précisions. Chapitre 5, versets 4 et 5. « L'Éternel, quand tu es sorti de Séir, quand tu t'es avancé, venant des champs d'Édom, au sud, donc, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé. Les nuages ont déversé leur eau. Les montagnes se sont liquéfiées. » On imagine la boue, hein, le torrent de boue qui emporte toute cette armée qui est irrésistible. Les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel. Le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et au verset 20, du haut du ciel, on a combattu. Les éléments, Dieu a suscité des éléments depuis le parcours des étoiles contre Sisra. Les torrents du Kizon les a entraînés, le torrent des temps anciens, le torrent du Kizon. Mon âme, va de l'avant, sois forte. Voilà, donc c'est ainsi que Barak a pu poursuivre, n'a plus qu'à poursuivre les soldats ennemis en déroute qui sont emportés par ce torrent pour leur régler leur compte et remporter la victoire. Mais alors, me direz-vous, la deuxième femme, elle est où ? Elle intervient quand ? Je suis sûr que vous allez me poser la question. La deuxième femme, celle qui est censée avoir privé Barak de sa gloire, où est-elle ? Alors, en fait, il y a une deuxième histoire dans l'histoire. On ne va pas la lire, mais je vais vous en faire un bref résumé. Cette deuxième femme s'appelle Yaël. Elle est la femme d'Héber, un drôle d'oiseau, comptant parmi les descendants du beau-frère de Moïse. Et qui par ses origines aurait dû être solidaire avec les Israélites, mais qui avait conclu une paix séparée avec Yabin, pour lui-même et sans doute pour sa famille. Lors de la déroute des armées de Yabin, le chef de son armée, Sisra, donc, a pu s'échapper à pied. Or, une victoire n'est vraiment complète que lorsque le chef de l'armée est lui-même tué ou fait prisonnier. Et donc Barak, à la suite de l'intervention éclatante de Dieu, peut-être retrouve-t-il enfin l'élan qui aurait dû être le sien depuis le début. Peut-être même espère-t-il renouer avec la gloire qui aurait pu être la sienne. Et il se lance donc à la poursuite de Sisra, qui s'est échappé à pied. Et donc, Sisra, dans sa fuite, finit par se réfugier dans la première tente supposée amie venue. Et je vous le donne en mille, c'est celle de Yaël. La femme d'Héber, donc un sympathisant. Ça va, vous suivez, il y a beaucoup de noms. Hein. Assoiffé, il lui demande à boire. Elle lui donne du lait et, confiant, pensant, se croyant en sécurité, il s'endort, gagné par la fatigue et le sommeil. Et Yaël, donc la femme d'Héber, prend alors un pieu de sa tante, un marteau. Elle le plante dans la tente d'Héber et il nous a même précisé qu'elle y met de l'énergie puisque le pieu va même se planter jusque dans le sol. On peut dire qu'il est cloué, quoi. Hein. Barak survient sur ses entrefaites, lui qui est à la poursuite de Sisra, et puis ben, il arrive là. Sa poursuite l'amène ici, et il ne peut que constater la mort de Sisra, tué par Yaël, et c'est ainsi qu'il a perdu, au profit de cette femme, Yaël, la possibilité de remporter la gloire ultime sur le plus gros de l'armée de Yabin. Cette bataille, c'était un instant décisif pour Israël. Vraiment, la spirale descendante s'est inversée. Et Israël retrouve le chemin de la victoire. Nous le lisons au verset 23 du chapitre 4. Ce jour-là, Dieu humilia Yabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. La pression des Israélites se fut de plus en plus lourde contre Yabin, le roi de Canaan, jusqu'à son extermination. Et si nous trouvons dans le livre des Juges de bonnes raisons d'être accablés par cette fameuse spirale descendante que nous allons constater au fil des textes, ce texte nous permet néanmoins de tirer quelques conclusions positives. Tout d'abord, parallèlement au rétablissement d'Israël en fin de passage, il me semble discerner l'amorce du rétablissement d'un homme, Barak, qui me semble avoir eu un déclic en constatant l'intervention miraculeuse de Dieu. Il se lance de son propre chef à la poursuite de Sisra, alors que nous ne l'avions vu jusque-là que très à la traîne des ordres de Déborah. D'autre part, il suffit souvent de très peu de choses pour inverser le sens de déroulement de la spirale. Dans son livre « La tactique du diable », Louise décrit en ces mots le diktat produit par le mécanisme du péché. Il le décrit ainsi, « un désir sans cesse accru d'un plaisir toujours diminué ». En clair, cela signifie que pour retrouver le même niveau de plaisir que celui qui était procuré par les expériences précédentes, il soit nécessaire d'aller toujours plus loin dans le péché. Et si on comprend ça, on comprend mieux aussi la déclaration de Jacques, que nous lisons dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résistez aujourd'hui et ce sera moins dur demain. Et il finira par vous laisser tranquille. Je continue au verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est tout l'inverse de ce qu'on a envie d'entendre. On aime beaucoup les passages qui nous parlent de changer notre tristesse en joie. C'est tout l'inverse. Hein. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et c'est la spirale ascendante qui s'amorce bien souvent en changeant une seule petite chose, en changeant une disposition. Les situations stables et immuables, ça n'existe presque pas, ou pas longtemps. Soit elle progresse, soit elle régresse. Quel que soit le stade où nous en sommes, ce qui compte, c'est la dynamique. Et Barak a été privé de la gloire de la victoire, mais j'ose croire qu'il a su s'engager sur une pente ascendante après avoir bénéficié de l'intervention de Dieu. Et il apparaît d'ailleurs dans la liste des héros de la foi en Hébreux 11, aux côtés de juges dont nous allons parler, alors que Déborah, curieusement, ne figure même pas. Par la foi, ils ont mis en fuite une armée étrangère, voilà, qui pourrait correspondre à ce qu'a vécu Barak. D'autres remarques à propos du livre des juges en général et de ce passage en particulier. Ne pas perdre de vue, vous avez évoqué des chiffres de durée tout à l'heure, ne perdons pas de vue que nous sommes dans le temps long. Selon les variantes de chronologie, le livre des juges se déploie sur deux ou trois siècles. Deux ou trois siècles de l'histoire d'Israël, et les épisodes tristement marquants sont entrecoupés de longues décennies de paix. Et donc, quand nous lisons, les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ce ne sont probablement pas les mêmes que ceux de la fois précédente. Puis sur nous, on dirait autant. Hein. Surtout si nous sommes enclins à porter sur ces gens un regard sévère, pensons aussi au regard que porteront sur nous les générations futures. D'autre part, au cours des siècles, Dieu n'a jamais abandonné les Israélites, il n'a jamais perdu patience au point de renoncer à les rétablir dans la paix, même aux heures de leurs péchés les plus sombres, ainsi que nous le verrons à la fin du livre. Là où ils n'ont pas été fidèles, lui l'est resté. À propos des femmes, bien sûr, comment ne pas l'évoquer, les femmes qu'on assume parfois le qualificatif de sexe faible, c'est bien mal les juger. Si on considère ce passage nous montre la force des femmes, là même où les hommes ont abandonné la partie. Déborah, face à un Barak pour le moins démobilisé. Yaël, qui ne se résout pas à collaborer avec les ennemis d'Israël, contrairement à son mari. Car pour elle, il n'y a pas de demi-mesure. Soit elle laisse, en laissant dormir,